convergence citoyenne pour une transition énergétique, à l'initiative des collectifs contre le gaz de schiste. Les 26, 27 et 28 août, à Lézan, en Cévennes, c'est le rassemblement Énergie pour la planète. Un événement couvert par une quinzaine de radios associatives partout en France.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes donc à Lézan pour du 26 au 28 août pour cette convergence citoyenne pour la transition énergétique. Donc un plateau réalisé dans des conditions du direct mais diffusé en léger différé. Pour cette occasion, donc pour cette convergence citoyenne, nous sommes une quinzaine de radios associatives qui ont décidé de relayer cet événement pour des rencontres autour d'une table comme il va se passer tout de suite. Sachez que vous pouvez entendre ces émissions produites et diffusées par Radio Escapade sur différentes radios associatives un peu partout en France. Il y aura Fréquence Paris Pluriel, Radio Sainte-Afrique en Aveyron, Radio Grille Ouverte à Alès, Radio Système à Vauvert, Radio Larzac sur le plateau du Larzac, Plume FM à Serran dans le Morbihan en Bretagne, Alliance Plus à Nîmes, à Montpellier FM Plus et Divergence FM, Radio Pays d'Hérault à Saint-André de Sangonis et Montagnac, Radio Sommière, Terra One qui est une web radio, Radio 16 à Bessèges et enfin Knowledge TV Radio qui est une web TV et une web radio. Et aussi sur le net, les sons seront disponibles sur le www.sonsenlutte.net complètement gratuitement. Pour animer ce plateau aujourd'hui autour de la table, il y a Robert de Radio Pays d'Hérault, bonjour.
Bonjour.
Et donc moi-même Rémi de Radio Escapade et ben, je vais commencer par laisser la parole à Robert.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, écoutez, je crois qu'on ne peut pas dire sans trop se tromper que les événements du Japon du printemps dernier et les permis d'exploitation, d'exploration des gaz de schiste signés par Borloo au mois de mars 2010 ont été les déclencheurs d'une formidable prise de conscience autour des problèmes de l'énergie. Nous avons donc décidé aujourd'hui à Lézan pour ce premier plateau, ce premier débat ou en tout cas cette première explication de parler et ou de reparler des gaz de schiste. Voilà, c'était une des grandes problématiques évoquées ce matin dans un des chapiteaux ici à Lézan. Comment stopper la course aux énergies fossiles en particulier. Pour en parler, quatre invités, trois sont présents, le quatrième nous rejoindra tout à l'heure. Aymeric de Vallon, bonjour.
Bonjour.
Du collectif Non au gaz de schiste Île-de-France. Benoît Thévard, bonjour.
Bonjour.
Ingénieur conseil en énergie. Michel Rouvière, bonjour.
Bonjour.
Du collectif des Pays de Vence en Ardèche. Et nous rejoindra tout à l'heure en milieu d'émission. Il intervient déjà sur un autre chapiteau dans un autre endroit. François de Veillerette, co-auteur avec Marine Jobert du livre Le vrai scandale des gaz de schiste. Voilà, nous avons à peu près pour une heure d'émission. Merci à tous et à toutes de nous écouter. À toi Rémi.
Et pour commencer, comme l'a dit Robert, on va essayer de refaire un point sur cette lutte contre les gaz de schiste qui a pris forme, on va dire vraiment, qui a commencé à... On en a entendu parler à partir du mois de décembre à peu près, avec la première coordination nationale. C'était du côté de Saint-Jean-du-Bruel, je crois.
Oui, mais c'était un peu plus tard que ça, je crois. c'était quand
la
c'était...
première réunion était le 20 décembre à Saint-Jean. Mais
oui,
pas
la première réunion, c'était... Il parlait effectivement de cette coordination. La première réunion de la coordination, c'était au moment de la manifestation à... Comment ça s'appelle en Ardèche.
À Villeneuve-de-Berg. Voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous retracer justement l'évolution de cette lutte contre les gaz de schiste depuis le début de la prise de conscience jusqu'à le vote de la loi qui a eu lieu au début de l'été?
Les journées de l'aisance sont là pour en parler mieux que quiconque, en fait. C'est-à-dire qu'on essaye de s'organiser, on parle, on réfléchit dans nos campagnes et dans nos villes pour les gens qui sont concernés et qui ne veulent pas de cette horreur écologique et technologique. Et la prise de conscience de la société est là. Donc comment faire un résumé? Dans chaque collectif, c'est différent, mais on essaye tous de converger. Et donc, en fait, on se rend compte à chaque fois dans nos réunions de coordination nationale qu'il y a des régions, c'est comme ci, là-bas, c'est comme ça. On a du mal à se comprendre, on a du mal à se connaître. On ne sait pas comment converger, on ne sait pas comment faire un mouvement de poids pour dire maintenant à la société politique et industrielle, les citoyens n'en veulent pas. Et pourtant, en très peu de temps, puisqu'en fait, Saint-Jean-du-Bruel, c'était en...
Le 20 décembre.
C'est un, Non, la première réunion, c'est la manif
à Villeneuve-de-Berg.
De Villeneuve-de-Berg. C'était quand la date?
Au mois d'avril, je crois, le 3 avril.
26 février, voilà. C'est important parce qu'on a une loi, cinq mois après, on a une loi qui a été votée au Parlement. Une loi qui ne nous plaît pas, mais on a déjà une loi. Ça veut dire que les politiques ont vraiment pris la mesure de la possibilité du soulèvement citoyen que posaient les questions de gaz et pétrole de schiste. Donc c'est en perpétuelle transformation.
Alors peut-être, je vais, avant qu'on continue là-dessus, parce qu'il y a peut-être des auditeurs de toutes nos radios qui ne savent pas encore, j'espère que ce n'est pas le cas, mais qui ne savent peut-être pas encore ce qu'est le gaz de schiste, ce que sont les permis d'exploration. Il serait peut-être bon d'avoir un éclairage un petit peu informatif pour tous ces gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que le gaz de schiste et pourquoi tout un tas de collectifs se sont élevés contre ces permis d'exploration, de faire voilà, un bref technique, c'est quoi le gaz de schiste, pourquoi, comment on va le chercher et quels problèmes environnementaux ça peut poser. Michel Rouvière.
Bon, moi, je voudrais me présenter comme un simple citoyen qui n'était pas du tout impliqué dans quelque lutte que ce soit au niveau civil et politique. Donc, c'est bien dans ce cadre-là que je m'exprime. Donc, moi, j'ai découvert le problème du gaz de schiste, pour vous dire, à peu près en février de cette année. Et laquelle a été ma surprise de constater que, dans l'historique, un ministre chargé de la protection de l'environnement et de l'écologie signe un permis de forage sur une surface de 10 000 km². Donc, excusez du peu, mais c'est une surface absolument énorme. Sans concertation, que ce soit avec les élus, et encore au moins avec les citoyens concernés, c'est-à-dire les habitants de tous ces départements. Donc là, moi, j'y ai pas cru. Je veux dire, historiquement, j'ai dit non, mais là, c'est une blague, c'est pas possible. En plus, quand on apprend les dégâts environnementaux qu'occasionne l'exploitation et l'exploration de gaz de schiste, je vais en parler sur un peu la technique, si vous voulez. Là, vraiment, je suis tombé des nues. Ça a été, pour moi, en tout cas, vraiment à titre personnel, ça a été un tsunami. Parce que ça m'a remis de ma naïveté sur ma place dans la société en tant que citoyen. C'est-à-dire, je pensais que j'étais un citoyen dans une société démocratique où on allait tenir compte un petit peu de mon avis. Or, je me rends compte, non seulement on ne tient pas compte de mon avis, mais on ne tient pas compte non plus des avis des élus que nous avons élus. Donc moi, ma vision politique à partir de cet événement, ça a été dramatique. Parce que d'un seul coup, je me suis dit... Mais enfin, tu n'es plus un citoyen, tu es moins qu'un cloporte, puisque on va vouloir forer chez moi, on va détruire l'environnement, on va attaquer l'air, on va attaquer l'eau, qui sont les principes fondamentaux de la vie, et il n'y a aucune concertation. Ça, c'est quand même incroyable. Même si après, ils ont parlé de moratoire, mais le moratoire, il n'existe toujours pas. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie malhonnêteté politique au niveau des discours politiques. Maintenant, pour ce qui est de l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste, je crois que tout le monde est à peu près au courant, mais je peux rappeler rapidement les choses. Il s'agit d'exploiter des gaz qui sont enfermés dans une roche sédimentaire qu'on appelle le schiste. Donc, ce sont des roches qui se sont compactées et ont enfermé du gaz dans des cellules fermé, ça a son importance parce que ça explique ensuite la technique de fracturation hydraulique qui va permettre d'exploiter ces gaz. Donc ces gaz ont été enfermés dans des roches sédimentaires au fil des millions d'années, aux endroits où il y avait des mers. Donc voilà, il y a eu des dépôts et ça a enfermé des gaz. Donc comment ils font? Eh bien tout simplement, en faisant un forage vertical, ils ont des carottes de toute la surface, de toute la profondeur du terrain. Ils repèrent une zone de schiste et là, ils arrivent, alors les moyens, je ne les connais pas, mais ils arrivent à passer d'un forage vertical à un forage horizontal, donc qui concerne uniquement la couche concernée, c'est-à-dire la couche de schiste. À partir du moment où ils ont fait ça, là-dessus, il va falloir qu'ils fassent exploser cette roche pour libérer les molécules de gaz. Donc, ils vont balancer de l'eau de l'ordre de 15 000 à 20 000 mètres cubes d'eau dans les tuyaux qu'ils auront mis en place. Ensuite, de mettre une charge de dynamite, fermer le système et faire exploser. Donc il faut bien voir que non seulement ça explose la couche de schiste, mais ça explose aussi les couches supérieures et inférieures. Donc ça crée des fissures, c'est pour ça qu'ils mettent du sable d'ailleurs qui est employé, parce que ça maintient les fissures ouvertes. Et non seulement du sable, mais ils emploient environ 2% de produits chimiques. Et le nombre de produits chimiques, il est très variable, il peut aller de 150 à 500 produits chimiques dont on ne peut avoir la composition puisqu'ils prétendent que c'est un secret industriel. Donc voilà une technique extrêmement dangereuse, extrêmement nocive, et qui, pour finir là-dessus, peut-être il y aura d'autres sujets, le problème de ce genre d'exploitation, c'est qu'il y a des va-et-vient sans arrêt de camions qui vont amener l'eau pour la fracturation. Il y a des plateformes de béton, etc., qui sont mises en place pour pouvoir poser les dériques. Les dériques, c'est 30 à 40 mètres de haut. Et puis les produits chimiques vont donc être projetés dans la terre. Il y en a la moitié qu'on va récupérer, entre 30% et la moitié qui vont être récupérées. Ces eaux sont nocives puisqu'elles contiennent non seulement du gaz mais des produits qui ont été récupérés lors du forage, et le reste de l'eau reste dans le sous-sol. Donc, vous voyez déjà le premier danger. Et le dernier danger, c'est que les fracturations ne se faisant pas seulement horizontalement, mais verticalement vers le haut et vers le bas, les nappes aquifères étant plutôt en surface, au bout d'un moment, vous allez avoir des remontées de gaz qui ont expliqué, dans le film Gasland, qui ont expliqué qu'en étant sous pression, le gaz, tant qu'on ne l'a pas laissé échapper, eh bien, vous pouvez allumer votre eau avec un briquet. Voilà, comme ça s'est produit aux États-Unis dans certains endroits.
Alors, des conséquences sur l'environnement, pollution de l'air, des sous-sols, du sol, etc. Et puis apparemment aussi des conséquences sur la santé publique, parce que tout ça, les pollutions, ça a des conséquences sur les hommes aussi. Émeric de Vallon ?
Oui, il y a les Américains qui ont la chance de connaître cette folie industrielle. Il y a des maladies neurologiques terrifiantes qui apparaissent aux alentours des forages. Il y a des... Enfin, la catastrophe, elle est à tous les étages, parce qu'il y a également l'air qui est pollué, l'eau, l'air, la terre, les quatre éléments, quoi, les trois éléments principaux pour la vie. Donc c'est vraiment une atteinte à la vie, et les populations évidemment sont concernées. Je sais pas, faut aller voir le film.
Gasland.
Et d'autres films qui vont être... Parce qu'on a d'autres films qu'on va pouvoir bientôt mettre à disposition des collectifs. On essaye d'en faire venir pour communiquer. Parce que les gens qui ne sont pas encore au courant, c'est parce qu'ils le font exprès. Et surtout, sachez que ce n'est pas fini en France. Ce n'est pas parce que la loi a été votée que ça ne se fera pas en France. Parce que cette loi est une mauvaise loi. Et c'est pour ça qu'on continue. Parce qu'il y a une grande démobilisation qui a eu lieu. Bon, on parlera peut-être de ça plus tard. Mais ce n'est pas fini en France. Et les pétroliers visent encore le sud, le nord et l'est de la France, très clairement.
Justement, avant de parler de démobilisation, au niveau de la mobilisation, vous l'avez dit, ça a été très rapide. Dans l'espace de 5 mois, on est passé du début d'une contestation au vote d'une loi. Est-ce que vous avez été étonné par la prise de conscience? Il y a des collectifs qui sont créés partout dans les endroits concernés, en Île-de-France, en Ardèche, dans le Gard, dans l'Aveyron. Ce qui est un peu original pour l'occasion, c'est que ce n'est pas des profils de gens justement qu'on s'attendait à retrouver. Vous l'avez expliqué vous-même, vous n'aviez pas forcément une conscience politique très importante. Mais là, sur ce sujet-là, vous êtes engagé.
Je sais pas lequel devait répondre. Je crois que l'engagement, il est naturel quand on sent qu'on attaque les fondements de la vie. Les fondements de la vie, c'est l'eau, c'est l'air. Le jour où les gens auront du pétrole ou du gaz pour mettre dans leur voiture, mais qui ne pourront plus respirer ou qui ne pourront plus boire, on verra ce qu'ils choisiront. Moi, je dis qu'entre de l'eau qui n'est pas polluée et puis remplir ma voiture, ben, je préfère pouvoir boire jusqu'à la fin de ma vie, quitte à ne pas prendre ma voiture. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, il y a une logique là-dessous qui font que... Moi, je suis extrêmement ému et j'ai été extrêmement choqué, voire indigné, voire révolté, je ne sais pas quel terme employer, par le fait qu'on puisse attaquer comme ça, de front, la qualité de vie des gens et leur environnement. C'est absolument scandaleux et je sais pas, c'est complètement irresponsable, avec trois R, c'est irresponsable.
c'est plus que la qualité de la vie, c'est la vie elle-même. C'est un combat contre le vivant. Et moi, j'ai vécu la même tsunami intérieur. Et pendant plusieurs nuits, j'ai pas dormi. Et tellement on se rend compte que c'est la fin du monde, d'une certaine manière. C'est l'organisation planifiée, industrielle, de la fin de la vie sur Terre. Donc évidemment que les gens, on n'a pas été surpris, puisque nous avons été surpris par la folie qu'ils sont capables de faire. Et on s'est demandé si ces gens étaient vraiment des hommes. On peut se poser la question. On sait qu'ils le sont, mais ils pensent à leur profit avant de penser à la vie. Donc peut-être qu'ils imaginent une autre planète quelque part, peut-être qu'ils ont un plan B pour eux, mais je sais pas, on peut les interroger, savoir s'ils ont des enfants, s'ils pensent à l'avenir de leurs enfants. C'est assez simple hein, quand on se rend compte et qu'on est confronté à cette illogique d'un point de vue fondamental de la vie, cet illogisme parfait, on ne peut que se réveiller. Donc c'est d'un certain point de vue, et moi je dis ça maintenant, c'est vraiment c'est formidable parce que les citoyens qui pour l'instant s'occupaient de leur petite vie dans leur coin se rendent compte qu'ils ne peuvent plus le faire et qu'ils sont obligés de réinvestir le terrain politique, le terrain du choix énergétique, le terrain parce que sinon ils vont le faire. Donc si on ne se réveille pas et si on ne parle pas et si on ne change pas, si on ne se rencontre pas, si on ne réorganise pas et si on ne dit pas aux politiques, vous ne le ferez pas parce que nous on ne le veut pas, et donc le politique pourra le souffler dans l'oreille de l'industriel en disant ouais mais ils n'en veulent pas, et l'industriel se rendra compte qu'à l'arrivée ça va lui coûter trop d'argent parce que l'industriel il pense qu'à se faire de l'argent. Derrière l'industriel il y a l'actionnaire, donc l'actionnaire c'est qui? C'est, on revient à la population, parce que beaucoup de gens pour leur retraite etc. ont des actions comme ci et comme ça, faut avoir un petit peu d'argent, mais il y a plein de gens qui mettent un petit peu dans leur compte comme ça à la banque, j'ai un petit compte je sais pas quoi, livret machin et machin truc bidule, je connais pas les noms parce que c'est vrai que j'ai pas trop d'argent dans ces endroits là. Il faut savoir que les gens sont à l'origine aussi de ça. Et parce que aussi on a besoin de pétrole, on a besoin de gaz, on veut se chauffer, etc. Donc on est pris au piège, on est pris à notre propre piège. Et on doit donc s'en sortir. Et on doit tous ensemble s'en sortir. C'est ça qui est, c'est ça qui est assez étonnant hein, dans cette affaire. C'est qu'en plus, pour l'occidental, il y a quelque chose, c'est un juste retour des choses. Parce que nous avons saccagé la planète entière depuis plusieurs centaines de générations. C'est-à-dire qu'il y a eu, depuis, on parle de Christophe Colomb, machin bidule, depuis que l'Occident s'intéresse aux autres mondes, il est allé détruire pour prendre et puis transformer le monde dans lequel on est, qui se transforme de plus en plus vite. On n'a plus de pétrole et puis on sait qu'on en a chez nous et puis ça revient chez nous. C'est un juste retour des choses et ça nous oblige à prendre conscience qu'on ne peut plus continuer à vivre comme ça et qu'il va falloir réinventer les choses. Donc, oui, c'est surprenant. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on ne soit pas plus, parce que c'est la vie de tout le monde. Et dans nos collectifs, il y a eu une grande poussée comme ça, essentiellement en Ardèche. En Ardèche, ils sont assez formidables et très impressionnants. Pour nous tous, c'est quand même un exemple. Moi, je le redis parce que vraiment, c'est un exemple d'organisation et de tout le monde est là. Et les élus locaux, d'habitude qu'on a l'habitude de stigmatiser, parce que évidemment, les élus, c'est les mauvais, ils sont déjà du mauvais côté. Non, tous les élus ne sont pas mauvais, même si dans nos collectifs, on veut réinventer, on ose prétendre réinventer la société, on ose prétendre mettre, comme ce matin on l'a dit, on va mettre le capitalisme par terre, etc. Oui, on va peut-être le faire, mais allons-y doucement et gaiement, mais voyons que le capitalisme, ça commence par nous. Qui a des actions? Quel genre d'action? Ou obligation, j'en sais rien, je ne sais pas les termes, même des petits comptes livrets. Ces comptes livrets, comment ils sont rémunérés? Par des grandes actions, par des investissements dans des grandes sociétés qui, elles-mêmes, finissent par extraire du pétrole et du gaz de schiste.
Alors, revenons un petit peu au gaz de schiste, peut-être. Parce que, dans la deuxième partie de l'émission, je pense qu'on parlera un petit peu de l'avenir et de l'autre société à laquelle on peut aspirer. Mais la démobilisation a un peu eu lieu quand a été votée au Parlement, avec une petite navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, d'une loi qui interdit cette technique de fracturation hydraulique. Alors, il faut les croire, là, on a gagné, ou bien c'est encore un coup fourré?
Écoutez, moi, je réponds à titre personnel. Vous les croyez, vous, encore, les politiques? Avec toutes les promesses qu'ils nous font et tous les mensonges qu'ils profèrent, vous les croyez? Moi, je ne les crois pas. Donc, maintenant, les politiciens, je me suis rendu compte, à titre personnel, ça a fait partie de ce tsunami émotionnel dont a très bien parlé mon collègue, c'est que le tsunami, il a été lié aussi à une prise de conscience que le politicien qui, dans mon esprit, était censé défendre le citoyen, défendre ses intérêts, défendre sa qualité de vie, augmenter son niveau de vie éventuellement. D'un seul coup, je me suis rendu compte que c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que moi, le politicien, pour moi, maintenant, à part, bien sûr, je ne parle pas d'une manière...
Hein, en Ardèche, ils étaient tous là.
Ah, ben, il y a quand même un député qui a signé la loi, alors qu'elle est très ambiguë. Donc, passons là-dessus. Mais je veux dire, d'un seul coup, le tsunami, c'est de se rendre compte que les politiciens, qui devaient être nos représentants, sous prétexte qu'il y a 5 ans ou il y a 4 ans, on a mis un bulletin de vote dans une urne, et ça leur permettrait quoi ? C'est un chèque en blanc ? Moi, la démocratie, je ne la vois pas comme ça. Alors, si eux, ils la voient comme ça, ben, ça devient mes ennemis. C'est-à-dire que pour moi, la vision que j'ai de l'homme, du politicien, c'est une vision qui est devenue extrêmement négative. Parce qu'ils ne sont pas là pour défendre le citoyen, ils sont là pour défendre ou être au service des grandes compagnies financières et des grands groupes financiers. Voilà la réalité. Et il suffit de voir en ce moment, je sais que ce n'est pas le sujet, mais juste l'effleurer, il suffit de voir les effets de la crise actuellement, où ce sont les agences de notation qui tapent du poing et qui disent « vous allez faire ci, vous allez faire ça ». Voilà, c'est tout.
C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion dit détonation. D'où le bruit que tu as entendu tout à l'heure. Voilà. C'est normal. Je t'explique. Il y a une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion.
La quoi ?
L'agitation moléculaire.
Ah oui.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Oui, oui.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends ?
Oui, oui.
La la la. La la la.
Je voulais savoir, tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Mais oui, écoute, les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles. Tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers, et quelques improductifs.
Oui.
Alors ça s'empare très facilement des matières. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un incendie.
C'est normal.
Ah, oui, oui, oui.
La 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 la. C'est très simple.
Oui.
Tu te souviens de la combustion?
Quoi?
La destruction de l'immeuble par les flammes.
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu.
Mm-hmm.
Et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Quoi?
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. C'est normal. Tout à fait normal, c'est l'attraction terrestre.
La 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 la
la. Oui, quoi?
Pardon, je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Donc, on est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différentes composantes. Par exemple, les membres se séparent du tronc.
Oui.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Donc, dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal.
C'est normal.
Tu comprends?
Brigitte Fontaine et Areski avec le morceau C'est normal. Nous sommes toujours à l'aisant pour cette convergence citoyenne pour la transition énergétique. On vous rappelle que ce plateau est repris par une quinzaine de radios associatives un peu partout en France. Pour animer ce plateau aujourd'hui, donc, on est toujours en compagnie de Robert de Radio Pays d'Héro et de moi-même Rémi donc de Radio Escapade. Et on va refaire un petit tour sur nos invités.
Oui, trois invités aujourd'hui, Émeric Ballon, Bruno Tévar et Michel Rouvière. Et nous sommes dans l'attente toujours. Toujours dans l'attente de François de Veillerette qui intervient sur un autre plateau. Rémi ?
Eh bien, on va. C'était Benoît, juste Benoît Tévaux.
Je précise. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Tévar, pardon, je vais y arriver. Benoît Tévar.
Bien, donc la loi a été votée, ok. La fracturation hydraulique, on était resté juste avant la pause musicale sur l'idée que Michel se sentait floué dans sa confiance, dans sa fausse confiance.
Hein. Petit problème de micro
continu. Un problème de micro aux politiques n'empêche qu'une loi existe. Excusez-moi.
On va faire un petit changement de micro pour être sûr que celui-là marche bien.
Allô ?
Voilà, on t'entendra mieux.
Donc, la loi a quand même été votée qui interdit la fracturation hydraulique. Les collectifs ont décidé de ne pas se démobiliser parce qu'au fond, ils ont bien peur qu'on détourne la loi en appelant autrement ce qui serait la même chose. Hein, c'est ça ? Et donc. Aujourd'hui, à ce niveau-là, après on passera sur l'avenir, à ce niveau-là, on en est où dans les coordinations nationales sur l'analyse que vous faites de la situation ? Est-ce qu'on a commencé à explorer ? Est-ce qu'on a commencé à forer dans certains endroits ? On a parlé de la Seine-et-Marne. Est-ce que des camions, est-ce que la surveillance citoyenne est en place, etc. etc. Émeric de Vallon ?
Alors, plusieurs choses hein, dans la question. Donc je vais recommencer sur la loi. La loi est une mauvaise loi, mais c'est une loi. Donc en 5 mois, on a obtenu une loi. Ça ne s'est pas vu depuis très très longtemps. En 5 mois, on a obtenu une loi qui interdit officiellement la fracturation hydraulique en France. Et c'est la seule loi qui existe au monde. Alors de ce point de vue-là, c'est une victoire. Maintenant, les lobbies industriels ont soufflé dans les oreilles des rédacteurs de la loi qui innovaient parce que ça n'existe pas. La fracturation hydraulique, c'est d'ailleurs... Il n'y a même pas de définition de fracturation hydraulique. Donc en fait, ils interdisent la fracturation hydraulique, mais peut-être qu'ils permettront la stimulation hydraulique. Donc on peut rentrer dans des problèmes de sémantique. Il suffit juste de tourner le dossier, l'explication du dossier. Peut-être qu'ils feront de la fracturation qui apparemment n'en sera pas dans l'explication. Donc c'est là où effectivement on est inquiet. C'est que c'est une loi, donc a priori c'est interdit en France, mais cette loi est doublement une mauvaise loi parce qu'elle interdit quelque chose qui n'est pas défini, la fracturation hydraulique, et ensuite elle permet la fracturation hydraulique à des titres de recherche. Donc en fait, ils ont deux possibilités, les industriels actuellement, pour faire de la fracturation hydraulique et exploiter, chercher le gaz et pétrole de schiste, c'est d'aller redéposer un dossier. Là, ils sont en train de réétudier leur dossier, ils vont déposer les dossiers, ça sera, je pense, en septembre. On saura si oui ou non, quelle forme d'exploration ils vont faire. Et donc, ils peuvent changer hein, le terme. Donc, peut-être faire de la fracturation déguisée. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est dire non, nous, on ne va pas faire de la fracturation hydraulique. On va en faire parce qu'on voudrait faire un forage de recherche, etc. Donc, ils vont monter des dossiers de recherche. Et sous couvert de recherche, on va pouvoir en faire. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est une mauvaise loi. Mais en même temps, c'est une bonne loi parce que depuis 5-6 mois, nous sommes vraiment mobilisés. Et ce qui est incroyable aussi et ce qui est difficile pour les gens comme des citoyens qui n'avaient pas l'habitude de s'occuper de la question de la politique, dans le sens noble du terme, hein, gestion de la cité, prenons en compte la gestion de la cité, ben c'est que c'est éreintant parce que dès qu'on a 5 minutes, quand on est obsédé par ce truc-là, on sait que les industriels y travaillent et qu'ils ont beaucoup d'argent pour ça, qu'ils développent, et nous, on sent ça. Donc on travaille pour s'informer, informer les autres, dire que c'est pas possible, etc., etc., et montrer au pouvoir central, puisque toujours est là, et notamment via les informateurs que sont les ex-renseignements généraux, montrer que la population locale n'en veut pas et fera tout pour que ça n'ait pas lieu. Donc ces informations sont remontées, les politiques l'ont entendu, et ils ont dit « Ok, on va leur faire une loi, etc. » Cette loi n'est pas bonne. On reste présent et on reste très très vigilant parce que la coordination nationale a un groupe juridique de citoyens qui réfléchissent, plus ou moins conscients des problèmes juridiques, mais qui essayent de savoir quelle stratégie, quoi faire, comment attaquer, parce qu'il y a des attaques qui ont été faites pour les différents permis qui ont été accordés par Borloo et son administration. Et donc on est très présent là-dessus et on ne les lâchera pas. Et s'il le faut, on alertera évidemment la population. Et la dernière question, c'était est-ce qu'il y a eu, oui ou non, de la fracturation hydraulique en France ? La société Vermillon a reconnu 17 fracturations hydrauliques en France depuis 2008, dont une dans le sud-ouest à Foix, du côté de Foix. Et on sait que, tout le monde le sait, pendant 2 mois, les citoyens de Foix ont été privés d'eau potable parce qu'il y a des produits qui seraient issus... Alors, c'est du... Je sais plus quoi, le terme, je l'ai oublié, mais c'est des produits qu'on utilise dans le nettoyage à sec. Mais comme il y a presque un millier de produits qui sont utilisés, de produits chimiques qui sont utilisés dans la fracturation hydraulique, il est possible que ce produit-là existe dans leur processus de fracturation. Et pour l'instant, rien n'a été fait. Il n'y a pas de collectif du côté de Foix. Pourtant, on a essayé d'alerter. On essaye de continuer à alerter les gens pour voir si, oui ou non, en France, l'eau de Foix qui était imbuvable pendant 3 mois, là, ils ont annoncé il y a peu de temps qu'à nouveau, la société qui a obtenu le marché, parce qu'il y a une grande multinationale qui a obtenu le marché de dépollution des eaux de Foix. Donc maintenant, à nouveau, elle est potable. Mais où est l'origine de la pollution ? On ne sait toujours pas. Et il faut continuer effectivement à surveiller pour voir si ça ne vient pas de là. Parce que peut-être que si ça vient de là, ce n'est pas la peine de faire leur fracturation hydraulique de recherche.
Un mot, Benoît Attévard ?
Oui, c'est juste pour apporter une petite précision technique sur le fait qu'il n'y avait pas que les exploitants de gaz de schiste qui, évidemment, essayaient de défendre la fracturation hydraulique. Notamment c'est utilisé pour l'exploitation avec les forages horizontaux, mais ne serait-ce que pour l'exploration et regarder effectivement si un gisement permet de fournir suffisamment. Il y a déjà un forage vertical avec une première petite fracturation hydraulique qui est effectuée pour voir un petit peu quel est le retour de gaz et voir si c'est rentable d'aller faire un forage horizontal. Mais il y a aussi notamment les défenseurs de la géothermie profonde. Donc ce sont des systèmes géothermiques qui descendent à 4-5 000 mètres de profondeur aussi dans des couches de schiste et qui donc demandent aussi à un certain moment une fracturation hydraulique pour pouvoir aller après derrière injecter de l'eau qui elle-même se réchauffera avec la température et permettra un bon échange thermique et tout ça. Donc il y a aussi ceux qui veulent développer la géothermie de très grande profondeur qui serait utilisée potentiellement pour faire de l'électricité derrière et donc supposée énergie renouvelable. Disent attention, il ne faut pas non plus interdire à tout prix la fracturation hydraulique parce que ça pourrait nous servir. Donc voilà, il n'y a pas que en plus ceux qui gèrent le gaz de schiste qui sont un peu pour la défense de la fracturation hydraulique.
Et tant qu'on était dans les points sur l'actualité sur les gaz de schiste et qu'on parlait des problèmes judiciaires, est-ce que vous savez aussi où on en est des maires qui avaient pris un arrêté sur leur commune pour interdire les forages et qui ont été mis en justice par des grandes compagnies est-ce que c'est suivi par les collectifs aussi, ce type d'action ?
Oui, c'est suivi. Alors, c'est pas judiciaire, mais juridique. Alors, ils sont aux tribunaux administratifs. C'est dommage, Vincent était là, il aurait pu en parler. Mais c'est en cours, les dossiers sont en cours. Et donc, il y a eu des assignations faites par la société Schwebbach, donc qui a assigné 50 maires, 47... en Ardèche et 3 dans le Gard. Donc les dossiers sont en cours. Il y a les conclusions des avocats qui ont été saisis du côté donc, de la coordination nationale ont été envoyées, transmises à l'administration. Il n'y a eu aucun retour. Transmis à la fois à l'administration parce qu'ils ont saisi l'administration pour avoir les documents parce que en fait, les ministères refusaient de donner les dossiers qui ont été déposés par les sociétés. Donc il a fallu saisir la CADA pour obtenir les dossiers et voir que ces gens effectivement avaient bien prévu de faire de la fracturation hydraulique. pour être sûr hein, que les dossiers, que, parce qu'on pensait aussi qu'il y avait peut-être de fraude au départ, ce que nous avait dit Borloo, il disait qu'il y avait fraude, qu'ils n'étaient pas au courant. Et en fait, si, ils étaient au courant, puisque dans tous les dossiers, tous, à part la société Toreador en Île-de-France, la seule société qui ne fait pas de fracturation hydraulique, c'est Toreador, paraît-il. Tous les autres avaient bien expliqué qu'ils feraient de la fracturation. Donc... concrètement, la balle est dans leur camp. Les conclusions de nos avocats ont été envoyées et on attend un retour avec peut-être, et vraisemblablement, on imagine qu'ils attendent la promulgation de la loi parce qu'elle n'a pas été promulguée encore. Elle interviendra, c'était le 13 juillet, elle était promulguée, mais elle sera effective ça doit être en début septembre. Ou en octobre. Donc à ce moment-là, vraisemblablement, les tribunaux risquent de commencer. Parce que si la loi leur permet de débouter tout le monde, je pense qu'ils s'en contenteront. On attend, la balle est dans leur camp.
Bon, venons-en un peu au fond maintenant. Pourquoi diantre cette grande mobilisation ? On a la chance, pour une fois, d'avoir en France une ressource énergétique fantastique. Fossiles, mais pourquoi donc ? C'est peut-être une chance pour la France et pour notre indépendance, non ? Pourquoi vous...
Moi, je vais bien répondre. En tout cas, j'ai ma vision là-dessus. C'est que, évidemment, tout le monde a conscience que les énergies fossiles sont en train de se raréfier. Et je trouve que ça a été une occasion exceptionnelle qui a été ratée. De donner un grand projet énergétique non seulement à la France mais à tout le monde occidental et tout le reste. Donc pourquoi ne pas utiliser les énergies fossiles ? On l'a dit en partie pour les dégâts environnementaux qu'ils font, pour l'attaque qui se fait sur l'eau potable, qui se fait sur l'air, et ça ce sont encore une fois les fondements de la vie. Alors quelle proposition faire ? Déjà, la proposition, ça serait de se rendre compte qu'avant de racler les fonds de tiroir sur les énergies fossiles, ne serait-ce que l'isolation des bâtiments amènerait à peu près une économie de 30%. Pourquoi ne pas commencer par ça ? Avant de racler les fonds de tiroir, pourquoi ne pas commencer par ça ? Pourquoi ne pas faire une grande campagne au niveau des citoyens pour leur expliquer que peut-être le moment de l'énergie très peu chère, c'est fini ? Et qu'il y a des moyens de mettre en place... ne serait-ce que par des tarifs qui seraient progressifs ou dégressifs, comme vous voulez, suivant le niveau social. Donc il y aurait des moyens déjà de faire d'énormes économies et de rendre responsables les gros consommateurs d'énergie, de les rendre beaucoup plus actifs dans l'achat de cette énergie. Donc voilà, déjà c'est une première réponse.
Mais effectivement, et là on en vient au vrai fond du problème, c'est que cette société-là... productiviste, consumériste, fait qu'il y a une forme de course en avant, de course sans fin, et qu'on va finir cette course finalement dans le mur, en épuisant la planète, en laissant une planète exsangue aux générations futures, et que c'est pas d'isoler plus, c'est peut-être aussi de consommer moins, de consommer autrement, et de produire sûrement autrement. Benoît Thévard.
Alors en fait, depuis finalement le début de l'exploitation des énergies fossiles, c'est à ce moment-là que la croissance économique et industrielle a commencé sa courbe exponentielle, on va dire. Il se trouve que depuis l'histoire, on n'a jamais su faire de la croissance sans augmenter notre consommation d'énergie. Alors donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on est face à un problème important qui est celui donc, de la raréfaction des énergies fossiles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a plus dans le sous-sol, puisqu'on n'a même pas consommé la moitié des réserves. Donc ce n'est pas un problème de réserve, c'est un problème de capacité de production, du fait que nous avons consommé le pétrole le plus facile à extraire, et que tout ce qui nous reste, c'est effectivement les gaz de schiste, les huiles de schiste, les sables bitumineux, l'offshore profond, etc. Bref, tous les pétroles qui sont soit plus visqueux, soit plus profonds, soit de toute façon plus difficiles à extraire, de plus difficiles à traiter. Et donc, nous ne pourrons plus... augmenter la capacité de production et donc répondre à la demande croissante de la planète et donc continuer en quelque sorte à faire de la croissance économique constante. Donc on arrive aujourd'hui, puisque nous atteignons le pic de production des hydrocarbures liquides, à un moment où nous arrivons aussi à un pic de la croissance. Et donc c'est ça qui est important de comprendre, parce que à un moment donné, quand un gouvernement décide d'un choix énergétique, on est face à une problématique majeure qui est celle qu'en France particulièrement, nous importons 98% de notre pétrole et nous importons 98% de notre gaz. À partir de là, quand on sait que 95% de nos moyens de transport dépendent du pétrole, qu'aujourd'hui, sans les moyens de transport, on ne peut plus manger, parce qu'on est dans un système centralisé, avec justement des économies d'échelle où les régions se sont spécialisées, vous avez plus de cochons en Bretagne, vous avez plus de céréales en Beauce, vous avez plus de fruits dans le sud-est, etc. Et donc vous avez un système centralisé qui nécessite énormément de transport, qui plus est routier. Et donc on est face à une situation dans laquelle notre société s'est organisée depuis maintenant une cinquantaine d'années en fonction de cette énergie abondante et peu chère. Et on arrive dans un système où on a besoin de cette énergie fossile à un moment où on va en avoir moins et en plus avec une énergie qui vient d'ailleurs dont on ne maîtrise plus finalement les approvisionnements. Donc le problème qui se pose, c'est qu'au niveau politique, que va dire le politique? En gros, c'est est-ce que vous êtes prêt réellement en gros, à diviser votre pouvoir d'achat par 10 par exemple si effectivement on n'exploite pas les gaz de schiste? Je dis n'importe quoi en termes d'ordre de grandeur, mais en attendant, ça veut dire qu'en termes d'énergie fossile, il est probable que si on n'exploite pas ce qui est sur notre territoire, ce qui va nous être annoncé par les politiques et par les industriels, c'est, en gros, c'est soit ça, soit rien. Parce qu'il faut bien comprendre que les énergies renouvelables, par exemple, ne pourront jamais compenser ce que nous apporte aujourd'hui l'énergie fossile et que le prix des énergies renouvelables est dépendant du prix des énergies fossiles. En ordre de grandeur, il faut 500 barils de pétrole pour faire une éolienne de 2 MW. Bien. Donc, ce qui veut dire que si le prix de votre baril de pétrole il double ou il triple, eh bien forcément, le prix de fabrication de votre éolienne il va aussi fortement augmenter. Et donc, toutes les énergies, tous les panneaux solaires, tout ça dépend des énergies fossiles à la base pour être fabriquées. Donc, on a un problème majeur qui est celui de faire le choix entre avoir moins ou exploiter, faire les fonds de tiroir, comme vous disiez tout à l'heure, et aller chercher tout ce qu'on pourra, quitte à tout pourrir. Mais ça veut dire que quand un gouvernement nous pose la question, soit on exploite ça, soit on a moins, il faudra que le peuple soit prêt à dire, eh bien nous aurons moins, et nous ferons avec moins. Et donc il faudra pour cela qu'on soit prêt psychologiquement, parce qu'on est largement dépendant de cette énergie-là, et donc qu'on se soit préparé en termes d'organisation pour arrêter de dépendre de cette énergie fossile et peu chère.
J'en profite pour accueillir à musique François de Villerette qui nous a rejoints sur ce plateau.
François Veillerette.
Veillerette.
Se vou esquecer, não tá esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclau. 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 Saudade, saudade, saudade minha terra sem inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclau.
Nous sommes toujours en léger différé de Lézan pour ces convergences citoyennes pour la transition énergétique. On vous le rappelle, c'est environ 15 radios associatives qui retransmettent ces émissions, 5 ou 6 radios présentes sur place. Et aussi, on vous rappelle aussi le site internet www.sonsenlutte.net où vous allez pouvoir retrouver et récupérer gratuitement tous les plateaux qui vont être réalisés à l'occasion de cette convergence. Je suis toujours en compagnie de Robert de Radio Pays d'Hérault et donc Rémi de Radio Escapade pour animer ces plateaux, et on va représenter tous nos invités.
Mais nos quatre invités, puisque maintenant, ça y est, on a, notre plateau est complet. Émeric de Vallon, Benoît Thévard, Michel Rouvière, et puis, un peu en retard, mais c'était prévu, François Veillerette. Bien, tout à l'heure, Benoît Thévard, vous nous avez parlé de croissance énergivore. Alors, j'ai un truc que je ne comprends pas. Les politiques... tout au long de la télé, dans toutes les radios, j'allais presque dire de droite à gauche, ils nous parlent tous que seule la croissance, que M. Sarkozy veut d'ailleurs aller chercher avec les dents, seule la croissance peut nous sortir, j'allais dire, de la situation difficile dans laquelle nous sommes. Je note d'ailleurs que le Parti Socialiste également annonce que lui, il sera plus fort que les autres et assurera la croissance nécessaire au grand bonheur de tous les Français. Alors... les politiques nous bernent, comme disait tout à l'heure Michel Rouvière, François Veillerette.
Alors, déjà, la croissance, ça ne suffit pas pour juguler le chômage, par exemple, hein, puisqu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut au moins 2% de croissance. C'est-à-dire que c'est une croissance exponentielle très rapide, donc déprédatrice des ressources naturelles, qui arrive à peu près à faire tenir la tête hors de l'eau au système. Enfin, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. J'ai un mandat d'élu local et je suis un associatif, mais quand je vois qu'on vient de dépasser le picoil, que la période similaire pour tout un tas de ressources minières essentielles à l'industrie aujourd'hui est sur le point d'être dépassée, il n'y a pas besoin d'être grand clair ou un grand spécialiste de ces questions-là pour voir que ce système-là, il va avoir très prochainement une fin ou le début de la fin. Et qu'on ne va pas pouvoir continuer ad vitam aeternam jusqu'à la fin des temps à pouvoir consommer de plus en plus de ressources non renouvelables, etc. Ça, ce n'est pas de l'idéologie, c'est simplement des faits. Donc en se basant sur ces faits, tout aussi évidemment, on voit très bien qu'il faut imaginer des systèmes de fonctionnement de la société dans lesquels on puisse créer assez de richesses pour que l'ensemble de la population voit ses besoins essentiels satisfait, tout en respectant finalement la finitude du monde, qui est aussi une donnée qui s'impose à nous. Hein, c'est encore une fois pas de l'idéologie, c'est simplement des faits. Et ceci non pas seulement pour les 5 prochaines années, parce que c'est une question de pas de temps aussi tout ça. Souvent les politiques gouvernent pour, je veux dire, c'est comme en regardant 2 mètres devant eux. C'est comme quelqu'un qui ferait du vélo en regardant la roue avant. Hein. Si on fait du vélo en regardant sa roue avant, vous pouvez croire mon expérience de cycliste, on se casse la gueule. Hein. Et si on veut faire du vélo sans tomber, il faut regarder 20 ou 40 mètres devant. Pour la politique, c'est la même chose. Il faut regarder loin devant, au moins à moyen terme, et si possible également à long terme en même temps. Et donc quand on regarde dans ce pas de temps-là, on s'aperçoit qu'effectivement, il est urgent, indispensable d'imaginer une société qui prenne en compte la finitude du monde et l'appauvrissement des ressources naturelles. Donc une fois qu'on a dit ça, bah, ça paraît complètement évident de ne pas pouvoir dire en tant qu'élu, oui, on continue comme avant, machin, croissance, bidule, on continue à taper dans l'héritage, youplaboum, youplaboum. Ça, c'est absolument impossible. Donc il faut imaginer une autre façon. Non pas de. Alors moi, je me méfie des mots, parce que les mots sont toujours chargés, un peu piégés. La croissance, bon, ça, c'est piégé, c'est pourri. Le développement, c'est aussi maintenant un peu piégé. Donc moi, je préfère le mot de mise en valeur. Mise en valeur, il n'y a pas une question de quantité, il n'y a pas d'idée de quantité là-dedans, mais une question de qualité. On a une planète, elle est là, on vit dessus, on n'a pas de rechange, contrairement à ce que certains délires pseudo-scientifiques voudraient nous faire croire, ou pseudo-scientistes. Mais il faut qu'on la mette en valeur pour le plus grand bonheur de l'ensemble de l'humanité. Donc une fois, soit c'est les objectifs, vous trouverez rarement un politique qui vous dira qu'il n'est pas d'accord avec ça. Le seul problème, c'est qu'après ça, ils changent de braquet, ils changent de logiciel, et ils vous répondent en dehors de ça. Mais si on reste cohérent entre cette volonté de mettre en valeur la planète de manière durable, mais pour le coup, en sortant du côté aussi complètement piégé du terme durable, on fait du durable maintenant, même Coca-Cola, hein. Durable, ça veut dire dans le temps et pour tout le monde, voilà. Donc ça veut dire environnement et justice sociale, mais justice sociale pas seulement à travers les classes sociales françaises, mais pour l'ensemble de l'humanité. Ça veut dire que nous Français, nous Européens, bah forcément, comme on devra baisser la voilure en termes d'exploitation des ressources naturelles, on sera obligé de consommer moins qu'un ressortissant du Bangladesh ou du Burkina Faso, qui lui devra consommer peut-être un peu plus parce qu'il n'a pas ses besoins élémentaires qui sont satisfaits. Et ça, c'est le logiciel de base sur lequel tous les politiques, parce que ça s'impose à nous, doivent réfléchir les projets pour demain.
Une réaction, Benoît Tévard ?
Oui, alors du coup, je pense qu'on est, bien en phase sur cette question-là. J'ajouterais que on a quand même un problème à résoudre assez important, qui est que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, en tout cas qui gèrent une entreprise, ont toujours appris à faire avec de la croissance. Et n'importe quel cours d'économie explique que ça fonctionne, tout fonctionne que s'il y a de la croissance. Or, puisqu'on démontre dans l'histoire qu'on n'est pas capable de faire de la croissance sans augmenter notre consommation d'énergie et notre prélèvement sur les ressources, et que nous allons avoir moins d'énergie et moins de ressources, donc ça veut dire que les entrepreneurs qui aujourd'hui non seulement font l'emploi, mais font également, produisent ce dont nous avons besoin au quotidien, doivent intégrer le fait que justement le système économique tel qu'il fonctionne, par la force des choses, ne sera plus le même. Que l'époque de la croissance permanente, qu'on le veuille ou non, est terminée. Et donc, en tant qu'entrepreneur, c'est un sacré défi. Donc, l'entrepreneur doit, entre guillemets, réussir à assimiler cette question-là et se poser la question de l'utilité de son activité. Parce que si on ne fait plus de croissance, ça veut dire qu'on a une contraction de l'économie, que globalement, on va avoir moins de finances pour faire tout ce qu'on a à faire. Et donc, ça veut dire qu'il faudra que chacun se demande, est-ce que ce que je fais est utile pour la société ? Parce qu'en période où les gens ont moins de ressources, eh ben, ils ne vont pas acheter des trucs qui ne servent à rien. Donc il y aura du travail pour tout le monde, parce qu'on aura toujours besoin de répondre à nos besoins essentiels, mais il faudra que les entrepreneurs se posent la bonne question de à quoi sert mon activité, est-ce qu'elle est utile pour la société, pour demain et sur du long terme.
Et puis, Michel Roubien.
Oui, juste une réflexion sur les deux interventions avec lesquelles je suis globalement d'accord. Mais il y a quand même deux questions qu'on devrait se reposer, qui sont les plus simples. C'est la croissance pour qui ? La croissance pour quoi ? La croissance pour qui, quand on sait qu'il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable ? La croissance pourquoi, quand on sait que voilà, y a des gens qui n'arrivent pas, même en travaillant, à se payer un loyer. Donc faire de la croissance pour maintenir une activité industrielle ou économique qui profite à qui ? Encore une fois, moi j'ai la réponse, je vous la laisse. En tout cas, moi, je ne m'inscris pas dans ce truc-là. Et je pense qu'il y a un débat idéologique que M. De Villette, je ne sais plus, Bayrette a évacué. Moi, je pense qu'on est obligé de passer par un débat idéologique, parce que c'est quand même un des fondements de l'orientation, de l'économie et du développement.
Oui.
Oui, alors quelque chose de très idéologique, c'est justement ce qu'il advient, l'analyse de ce qu'il advient de la richesse qui est créée. Actuellement, on est obligé effectivement d'avoir, entre guillemets, obligé 2% de croissance pour arriver à maintenir les choses à peu près en l'état. Mais c'est parce que cette richesse qui est créée, basée sur le pillage des ressources naturelles, elle donne légalement lieu à des fuites de richesses extraordinaires. C'est-à-dire que quand on voit que quelqu'un comme Julien Balkany, d'ailleurs, qui est un promoteur du pétrole de schiste dans le bassin parisien, qui est un trader, un spécialiste des hedge funds, hein, qui nous ont foutus dans un caca absolument inextricable il y a quelques années, dont on paye encore aujourd'hui les conséquences, c'est quelqu'un qui s'enorgueillait d'être effectivement un trader primé parce que c'est les fonds qu'il représentait avaient donc des gains en moyenne de 30%. C'est-à-dire que là, globalement, on avait 30% de la richesse qui était représentée par ces titres qui fuyaient vers des... qui finissaient donc dans les poches d'actionnaires qui n'avaient jamais travaillé pour avoir ces ressources-là. Ce qui veut dire que le système, il dégage énormément de richesses, sans doute beaucoup plus qu'on en a besoin dans nos pays au moins, parce que c'est mal réparti, effectivement, peut-être avec, sans doute même avec certaines classes sociales et avec d'autres pays, mais également parce que le système financier, dont on voit encore aujourd'hui comment il arrive à mettre à genoux l'ensemble d'économies d'une région dans le monde, ponctionne des quantités ahurissantes de cette richesse qui est créée. C'est aussi ça, le problème. Donc, mais alors, c'est quelque chose qui peut être perçu comme négatif, mais aussi comme positif, comme à chaque fois. Parce que le fait que cette richesse fuit, bah, si on imagine que cette spéculation financière devient, parce qu'elle est réglementée très sévèrement, impossible. Ça veut dire qu'on va regagner, on est en capacité de regagner cette marge de dégagement de richesse, tout pour produire une richesse qui va être réaiguillée vers l'ensemble de la population. En d'autres termes, peut-être que ça veut dire aussi qu'on peut subvenir aux demandes de l'ensemble de la population sans faire plus de 2% de croissance, une fois qu'on aura supprimé cette fuite de richesse vers la spéculation. Donc, effectivement, là, on fait la vraie politique, c'est-à-dire qu'on critique le système économique. Moi, j'ai toujours du mal à appeler ça la science économique. Hein. Je ne suis pas de toute formation économiste, mais j'ai toujours été absolument stupéfait par l'aplomb avec lequel les spécialistes de la science économique, entre guillemets, assénaient des vérités aujourd'hui, qui, le lendemain, nous amenaient une catastrophe. Mais les mêmes personnes, le surlendemain, nous expliquaient qu'elles l'avaient prédit, mais qu'on n'avait pas compris, etc. Donc, c'est extraordinaire. Non, c'est pas de la science pour moi. Moi, je ne suis absolument pas un ennemi de la science, bien au contraire. Mais ça, pour moi, c'est du bidouillage. C'est des explications doctes, certes, mais qui servent qu'à justifier un système qui est basé sur l'injustice et la non-reproductibilité donc, du système, ni dans le temps, ni dans l'espace, pour nos frères d'autres pays beaucoup moins riches que nous.
Alors, là, c'est le grand débat de ces trois jours, hein, tout ce qu'on dit là, et que c'est aujourd'hui le premier plateau. Il y a quand même un petit point sur lequel je voudrais revenir, que ce soit Benoît ou que ce soit vous avez parlé de besoin, les entrepreneurs qui produit ce qu'on a besoin, mais c'est justement ce problème du besoin qu'il va falloir redéfinir. Quels sont les besoins ? On fabrique des produits inutiles, énergivores, que l'on jette, et que d'ailleurs, ils sont fabriqués de façon sommaire pour être obsolètes rapidement, pour qu'il y ait une rotation fantastique. Et tout ça, c'est de se reposer cette question de quels sont les vrais besoins. On revient à des questions fondamentales de l'être et de l'avoir. Et pourquoi a-t-on besoin d'autant d'appareils, de produits, au sens physique du terme, qui sont en train de rendre exsangue toute la planète et qui ne rendent pas plus heureux. Voilà, alors je crois que ça sera le grand débat des trois jours qui arrivent, Rémi.
Ben, on arrive déjà à la fin de ce premier plateau, donc il va falloir conclure vu qu'ils sont repris par une quinzaine de radios associatives dont je vais vous redire les noms. On vous rappelle qu'il y a donc Fréquence Paris Pluriel, Radio Sainte-Afrique en Aveyron, Radio Gris Ouverte à Alès, Radio Système à Vauvert, Radio Larzac, Plume FM dans le Morbihan en Bretagne, Alliance Plus à Nîmes, à Montpellier il y a FM Plus et Divergence FM, Radio Pays d'Hérault donc à Saint-André-de-Saint-Gonis, Radio Sommière, Terra One qui est une radio sur le web, Radio 16 à Bessèges et Knowledge TV Radio qui est donc là aussi une télé et radio sur internet. C'est donc 15 radios qui vont récupérer ces plateaux et donc on doit finir ce premier plateau. Et c'est bien sûr produit et diffusé aussi sur Radio Escapade. Et bien merci à tous nos invités pour ce premier plateau.
Et désolé de ne pas vous permettre de faire une conclusion, on a été très très bavard pendant cette heure-ci. Merci bien à tous.
Merci.
La conversation. convergence citoyenne pour une transition énergétique, à l'initiative des collectifs contre le gaz de schiste. Les 26, 27 et 28 août à Lézan en Cévennes, c'est le rassemblement Énergie pour la planète. Un événement couvert par une quinzaine de radios associatives partout en France.